VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 15 février 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, la France se prononce demain sur son engagement militaire au Mali et au Sahel lors d'un mini-sommet avec des dirigeants européens et africains. L'Union européenne et l'Union africaine se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour relancer un partenariat soumis à rude épreuve par la Chine et la Russie. En Éthiopie, levée anticipée de l'état d'urgence imposé au mois de novembre. La Russie a affirmé ce mardi avoir commencé à retirer une partie de ses troupes de la frontière ukrainienne, mais l'OTAN et Kiev demandent des preuves avant de parler de désescalade. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le président français Emmanuel Macron réunit demain mercredi à l'Élysée des chefs d'État de pays partenaires pour discuter de la présence française au Sahel, en particulier au Mali. Le point avec Abdourahman Dia.
Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a indiqué que des annonces seront faites lors de cette rencontre, alors que Paris et ses partenaires européens s'apprêtent à annoncer leur retrait du Mali sous la pression du pouvoir de Bamako. Le statu quo n'est pas possible dans un contexte très dégradé au Mali, avec la prise de pouvoir par une junte, le refus d'appliquer un calendrier de retour à l'ordre démocratique qui avait pourtant été annoncé et le recours à une milice privée russe, a souligné M. Attal à l'issue du Conseil des ministres. Selon plusieurs sources concordantes, le président Emmanuel Macron doit annoncer mercredi soir ou jeudi un retrait du Mali des forces françaises de l'opération Barkhane, en marge d'un sommet Union européenne-Union africaine prévu à Bruxelles. Le groupement européen de forces spéciales Takuba, initié par Paris en 2020 pour partager le fardeau sécuritaire, devrait également quitter le Mali. Une réorganisation de la présence militaire française dans la région pourrait ainsi être annoncée.
Le sommet des dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine prévu jeudi et vendredi à Bruxelles doit relancer un partenariat essoufflé et menacé par d'autres puissances dans plusieurs domaines. L'Union européenne prévoit notamment un plan d'investissement de 150 milliards d'euros sur 7 ans. Les précisions de John Lindon.
Sur le continent, l'Union européenne est en concurrence directe avec la Chine et la Russie, toutes convoitant les richesses des sous-sols des pays africains. Mais depuis quelques années, l'instabilité gagne du terrain. Des coups d'État ont renversé les régimes au Mali, au Burkina Faso, au Soudan et en Guinée. Ces 4 pays, suspendus par l'Union africaine, ne seront pas représentés à Bruxelles. Des conflits déchirent également l'Éthiopie ou la Libye. Les groupes djihadistes sèment la terreur au Sahel. Parmi les dossiers brûlants à ce sommet, il y a aussi les présumés mercenaires russes, la lutte contre la pandémie de COVID-19. Seulement 11% de la population africaine est entièrement vaccinée. En outre, le manque d'emploi pousse chaque année des dizaines de milliers d'Africains à tenter un exil vers l'Europe. Faute de visa, la plupart arrivent clandestinement, souvent au péril de leur vie ou pour être renvoyés dans leur pays d'origine. L'Union européenne a annoncé un plan d'investissement ciblé de quelques 150 milliards d'euros sur 7 ans.
La justice française a définitivement validé mardi le non-lieu prononcé en 2018 par des juges d'instruction dans l'enquête sur l'attentat déclencheur du génocide de 1994 au Rwanda, mettant un point final à ce dossier qui a empoisonné les relations franco-rwandaises pendant plus de 20 ans. La plus haute juridiction française a rejeté les pourvois déposés par les familles de victimes de l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana, après la confirmation de l'abandon par la Cour d'appel de Paris en 2020 des poursuites contre plusieurs membres de l'entourage du président rwandais actuel, Paul Kagame. Au Kenya, le procès de Paul Gicheru s'est ouvert aujourd'hui. Paul Gicheru est un avocat accusé d'avoir soudoyé des témoins dans le cadre de poursuites de la Cour pénale internationale contre le vice-président William Ruto, finalement abandonné en 2016. Les procureurs affirment que M. Gicheru, qui nie ses allégations, a versé des pots de vin à des témoins allant jusqu'à 7 800 euros et menacé la sécurité des témoins de la CPI. pays. En Éthiopie, le Parlement a levé ce mardi de manière anticipée l'état d'urgence imposé en novembre lorsque les rebelles tigréens menaçaient de marcher sur Addis Abeba. Claire Morin-Jibou.
L'annonce a été faite sur Twitter par le ministère éthiopien des Affaires étrangères. La Chambre des députés a approuvé aujourd'hui la levée de l'état d'urgence. Ce vote des députés fait suite à une proposition du cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed visant à assouplir l'état d'urgence imposé en temps de guerre et qui devait durer jusqu'au mois de mai. Il a été proclamé le 2 novembre lorsque les combattants du Front de libération du peuple du Tigré s'étaient emparés de deux villes stratégiques sur la route menant à Addis Abeba. Durant l'état d'urgence, il y a eu des arrestations de masse de Tigréens qui ont été condamnées par beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme. Le conflit a fait plusieurs milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'Éthiopiens dans des conditions proches de la famine, selon les Nations Unies. L'OMS a lancé un nouvel appel à un accès sans limite au Tigré pour assurer la distribution de biens de première nécessité.
L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la crise alimentaire en Somalie, où la malnutrition aiguë menace la moitié des moins de 5 ans en raison de la sécheresse. L'UNICEF a besoin d'urgence de 7 millions de dollars d'ici le mois de mars pour commander des aliments thérapeutiques, faute de quoi 100 000 enfants sont menacés. 5 personnes ont été tuées par l'explosion d'une mine au passage d'un convoi de voitures sur une route dans le nord-est du Nigeria. L'incident a eu lieu non loin du village de Maola, sur la route de Maïdigouri, la capitale du Borno, état où sévissent des groupes djihadistes depuis 12 ans. En RDC, 18 civils ont été tués aujourd'hui dans une attaque de rebelles de la coopérative pour le développement du Congo, la CODECO, en Ituri, dans le nord-est du pays. La population est en colère, la tension est vive, mais nous cherchons à calmer la situation, a fait savoir Innocent Matou Kadala, le chef de la chefferie de Banyali Kilo, dans le territoire de Djougou. Selon des sources concordantes, les casques bleus de la mission des Nations Unies au Congo, la MINUSCO et les organisations humanitaires ont quitté la zone depuis plusieurs semaines. L'Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont placés depuis mai sous état de siège sans que cela ait permis jusque-là de mettre fin aux exactions de groupes armés. L'écrivain et journaliste Driss El Khoury, considéré comme l'une des meilleures plumes de la littérature marocaine arabophone, est décédé hier à l'âge de 83 ans à Salaire près de Rabat, a annoncé l'Union des écrivains du Maroc. Auteur prolifique et personnage haut en couleur, Driss El Khoury était davantage connu dans le monde arabe que francophone.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a envoyé des signaux de sa volonté de dialoguer, mais aucun signe de désescalade sur le terrain n'a pour le moment été constaté par l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, à Bruxelles, à la veille d'une réunion des ministres de la Défense des États membres de l'Alliance. Nani Talani.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a eu ce mardi un nouvel échange téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov au moment où Moscou affirme avoir ordonné le retrait de certaines forces déployées à la frontière ukrainienne, a annoncé un responsable du département d'État. Lors de leur dernier appel samedi, ils étaient convenus de rester en contact, a dit ce responsable, sans détailler la teneur de leur conversation. Le fait que nous entendions maintenant que certaines troupes sont retirées est en tout cas un bon signe. Nous espérons qu'il y aura encore des suites, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz au cours d'une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine à Moscou. Il y a des signaux de la part de Moscou pour une poursuite de la diplomatie. Cela incite à un optimisme prudent, mais le déplacement de troupes par la Russie ne permet pas un apaisement des tensions si les équipements lourds restent sur place, car elles peuvent revenir rapidement, a précisé Jens Stoltenberg. Les ministres de la Défense de l'Alliance vont rencontrer jeudi leurs homologues ukrainiens et géorgiens, dont les pays sont candidats à l'adhésion à l'OTAN.
Le président américain Joe Biden va s'exprimer ce soir à 20h30 GMT à propos de la Russie et de l'Ukraine, a annoncé la Maison-Blanche après que Moscou a annoncé le retrait partiel de ses forces déployées autour de l'Ukraine. Le président américain va notamment réitérer, selon un communiqué, que les États-Unis restent ouverts ouvert à des échanges diplomatiques à haut niveau en étroite coordination avec nos alliés. Fin de citation. La Grande-Bretagne a annoncé aujourd'hui qu'elle co-organiserait en mars une conférence internationale avec les Nations Unies afin de collecter des fonds pour l'Afghanistan où la pauvreté et la faim s'enracinent depuis que les talibans ont pris le pouvoir en 2021. La conférence aura pour objectif de recueillir 4,4 milliards de dollars pour la santé et l'éducation, somme dont l'ONU et les ONG sur le terrain auraient la responsabilité. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
La croissance du Sénégal devrait rebondir de 5,5% cette année et augmenter fortement avec plus de 10% en moyenne entre 2023 et 2024. Cette hausse sera en grande partie tributaire du démarrage de la production d'hydrocarbures qui représenterait en année pleine un gain du PIB équivalent à près d'1,8 milliard d'euros, soit 6% du PIB hors pétrole en 2024. Toutefois, ces projections restent dépendantes des prix mondiaux du pétrole et de la mise en œuvre effective des projets d'hydrocarbures dans le calendrier prévu. Le Bénin a lancé son nouveau programme de coopération avec l'Union européenne pour 2021-2024. Il permettra de poursuivre, d'améliorer les chantiers de développement et d'assurer un partenariat durable pour la transformation structurelle. Le programme servira aussi à poursuivre la prise en charge efficace des défis sécuritaires et socio-économiques. Pour terminer, l'élevage d'insectes et l'hydroponie, une sorte de culture de plantes, pourrait doper la sécurité alimentaire, l'activité des entreprises et l'économie circulaire. En plus d'améliorer l'accès à des aliments nutritifs, l'élevage d'insectes et les cultures hydroponiques destinées à l'alimentation humaine et animale pourraient créer des millions d'emplois, avoir un impact positif sur le climat et l'environnement et renforcer les économies nationales, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions débutent ce soir en Europe. Dans une affiche qui a des allures de finale avant l'heure, le sommet entre le PSG et le Real Madrid est celui des retrouvailles entre deux équipes qui se sont affrontées trois fois depuis la saison 2015-2016. Le trio parisien Messi, Neymar, Mbappé est sous pression car il n'a toujours pas répondu aux attentes placées en lui. Entre lente adaptation pour l'Argentin et longue blessure pour le Brésilien, Neymar, qui n'a pu rejouer depuis fin novembre en raison d'une entorse de la cheville gauche, est disponible. Dans l'autre match de la soirée, Manchester City se rendra sur le terrain du Sporting Portugal. Les hommes de Pep Guardiola, intraitable leader de la Premier League, ont une revanche à prendre. Après leur finale perdue l'an dernier devant Chelsea 1-0, l'entraîneur espagnol, qui n'a pu remporter la Ligue des Champions depuis ses années à Barcelone, vainqueur en 2009 et en 2011, court toujours après un nouveau succès dans la compétition avec Manchester City. Face à lui, si le Sporting Portugal fait office d'outsider, il s'appuiera sur le talent de son jeune entraîneur Ruben Amorim, 37 ans. Le Sporting Portugal court derrière son deuxième titre après celui remporté depuis 2002. Basketball, Dimar DeRozan a mené les Bulls de Chicago vers la victoire 120-109. En inscrivant 40 points face aux Spurs de San Antonio, la star des Bulls a établi un nouveau record pour sa franchise en marquant plus de 35 points lors de 6 matchs consécutifs. C'est mieux que le légendaire Michael Jordan pendant la saison 1996-97. Les Nets de Brooklyn ont mis fin à leur série de défaites contre les Kings 109-85. À Washington, les Wizards ont battu 103-94 les Pistons de Détroit, leur infligeant une huitième défaite d'affilée. À Los Angeles, les Clippers ont infligé aux Golden State Warriors 119-104 leur 16e défaite de la saison. Des nouvelles des JO d'hiver de Pékin, l'Allemagne s'est offert un triplé en bobsleigh à deux hommes où l'insatiable Francesco Friedrich a remporté son 3e titre olympique. Il s'agit du premier triplé pour une nation aux Jeux en bobsleigh. Les Allemands Francesco Friedrich et Margis Thorsten réalise un chrono de 3 minutes 56 secondes pour s'octroyer une deuxième médaille d'or dans la discipline, 4 ans après celle acquise à Pyeongchang. Avec cette couronne, l'Allemagne poursuit sa domination presque sans partage sur la piste de Nanjing, où elle a remporté 7 médailles d'or sur 8 distribuées en skeleton, luge et bobsleigh.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est descendu hier au front pour encourager les soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste. Il s'est rendu dans la région de la boucle du Moun et au nord du pays, des régions durement frappées par le terrorisme. Une sortie du nouvel homme fort saluée par des Burkinabés. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba s'est rendu hier lundi à Toini dans la boucle du Moun et à Waiguia et Solé dans le nord du pays. Une visite gardée secrète jusqu'en début de soirée et annoncée au journal de 20h de la télévision nationale. Ces localités visitées ont fait l'objet de plusieurs attaques terroristes faisant des dizaines de civils et militaires tués. À Ouagadougou, cette visite du lieutenant-colonel suscite beaucoup d'espoir au sein des populations.
C'est un danger pour sa sécurité, comme c'est lui le président. Il doit faire très attention. Puisque nous, on a fait des remarques. C'est pas que c'est pas bon, c'est bon. Mais en tant que leader, il doit montrer à ses compagnons d'aller faire le combat.
C'était normal qu'il aille là-bas, parce qu'avant tout, c'est le premier des Burkinabés et il fallait qu'il aille au front, prendre d'abord la température de la situation, galvaniser la troupe et essayer aussi de rencontrer les populations locales qui vivent cette hydre-là. Et donc, à mon sens, en tout cas, cette sortie est opportune et puis elle est la bienvenue.
Il est le président d'une nation, c'est que la sécurité de cette nation lui incombe. Poser cet acte matériel ou se rendre sur le terrain pour défendre la patrie, c'est une œuvre noble. C'est à féliciter.
Cela n'est pas un événement qui doit surprendre ou bien quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est un événement qui doit pousser les Burkinabés à se donner pour leur pays. Étant un président, il pouvait dire non, c'est vrai que je suis un militaire de nature, mais aujourd'hui, comme je suis un président, je peux rester là et puis envoyer qui que ce soit. Mais s'il a voulu aller de lui-même, c'est parce qu'il a un intérêt pour son pays. Parce qu'il veut montrer l'exemple au fait. Si lui-même il a pu aller, qui sommes-nous citoyens du Burkina Faso pour ne pas aller aussi au front?
Cette visite n'est pas surprenante, selon Pazien, juriste et analyste politique.
Le président Damiba lui-même a longtemps séjourné dans des lieux de combat. Il a dirigé, des bataillons sur des opérations. On peut comprendre que c'est certainement une façon pour lui de galvaniser les troupes et de rappeler à l'opinion publique qu'il tient certainement à restaurer la sécurité et à restaurer l'intégrité du territoire burkinabé. En tout cas, c'est une première et je pense que cela peut contribuer certainement à galvaniser les troupes. Et maintenant, le plus urgent, ce sont les résultats, parce que lui-même, il le dit, le premier indicateur que pour les évaluer, c'est le nombre de territoires recouvrés et le retour des populations déplacées. Donc je pense que c'est déjà un bon début, nous attendons simplement les résultats.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba doit prêter serment demain mercredi devant le Conseil constitutionnel en qualité de président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Comme chaque année depuis 1976, on célèbre ici aux États-Unis le mois de l'histoire des Noirs au cours du mois de février. Ce mois est aussi l'occasion pour des touristes afro-américains attirés par le tourisme mémoriel de partir à la découverte du continent africain. À Dakar, Alison Fernandez et Nba Indi ont suivi deux de ces touristes. Reportage.
Fraîchement débarqués de l'Ohio aux États-Unis, Maya et Camille passent leur première journée à Dakar. Et c'est au monument de la Renaissance, dans le quartier de Wakam, que les conduit leur guide.
It symbolized the rebirth of Africa. It was built in 2010.
Maya planifie ce voyage depuis presque 3 ans. Ce sont ses tout premiers pas sur le continent. Maya Jenkins.
En Amérique, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Afrique. Ce ne sont pas des images très positives sur la vie de tous les jours, les coutumes ou la culture. Donc je voulais expérimenter et me faire mon propre avis.
Comme la majorité des touristes afro-américains désireux de découvrir l'Afrique, Maya et Camille sont passés par une agence de voyage, celle de Djibril Sall, un enfant du pays qui a passé plus de 15 ans aux États-Unis et qui est revenu l'année dernière pour monter son agence. Djibril Sall, fondateur de Travel Sénégal.
La plupart de mes clients viennent pour la première fois en Afrique. Le Sénégal est donc le premier pays africain qu'ils découvrent. Ils viennent avec l'idée de créer une connexion avec l'Afrique, donc c'est leur porte d'entrée. En tant qu'afro-descendants, ils veulent se connecter avec leurs racines et je leur dis que c'est ici et qu'ils peuvent trouver cela et avoir une relation sincère et authentique.
5 jours plus tard, nous retrouvons Maya et Camille, dont le voyage touche à sa fin. Pour leur dernier jour, Djibril leur fait découvrir son quartier d'enfance, à côté de la mosquée de la Divinité. Pour les deux Américaines, le point d'orgue de leur séjour a été la visite sur l'île de Gorée, au lieu mémoriel et touristique, symbole de l'exploitation humaine pendant la traite négrière. Camille Wood.
The thing that sticks out the most is our experience at Gorée Island.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est notre visite sur l'île de Gorée. Je suis toujours en train de réaliser l'histoire qui s'est passée, la tragédie qui a eu lieu là-bas. C'était intéressant et beau à voir, et en même temps douloureux d'avoir un aperçu de ce que nos ancêtres ont traversé.
Avec l'île de Gorée, mais aussi Saint-Louis, les deux inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978 et 2000, le Sénégal a su valoriser son patrimoine historique et culturel pour se placer à l'avant-garde du tourisme de mémoire en Afrique de l'Ouest. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Gabon, en marge des salles de spectacle, les salles de sport se déconfinent aussi grâce à un projet de création des écoles de Kung Fu Wushu mis en place par la fédération. La discipline va se rapprocher de plus en plus du public scolaire. C'est le temps de l'initiation à ce sport après 2 ans de crise sanitaire. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangindze.
J'ai vu qu'il y avait des boxeurs et des karatékas et j'ai vu leur démonstration et c'était intéressant.
Intéressant pour Junior Leka au milieu des centaines de jeunes de son lycée. Il vient d'assister à quelques démonstrations du Kung Fu Wushu, une série découverte réservée aux adultes et qui n'est pas de l'apanage des enfants.
Cette pratique-là est réservée aux initiés. Il ne faudrait pas qu'ils aillent tenter à la maison et que s'ils veulent, il va falloir qu'ils intègrent l'école.
Une mise en garde du proviseur du lycée Sainte-Marie de Libreville contre toute pratique non encadrée de cet art martial par les élèves de son établissement. Jean-François Métougou reconnaît néanmoins que le Wushu, comme d'autres disciplines sportives, favorise l'équilibre de l'enfant.
Le sport, c'est la vie, parce que si on ne pratique pas le sport, on n'est pas en bonne santé, la condition physique n'y est pas. Et si la condition physique n'y est pas, ça veut dire qu'on ne peut pas suivre les cours.
Qu'il s'agisse des étirements dans des positions type grand écart en passant par des enchaînements, ces exercices adaptés aux capacités de chaque pratiquant l'aident à réaliser des coups de pied et poings furtifs et ciblés. La Fédération gabonaise de Wushu veut élargir son projet de création des écoles de Kung Fu Wushu à Libreville. Maître Mexan Domitsa, vice-président de la Ligue de Wushu de l'Estuaire.
Plusieurs écoles de Wushu se sont ouvertes dans différents établissements parce que le Wushu a d'abord l'avantage de favoriser la santé. Santé morale, santé physique. Okay? Donc c'est dans cet esprit effectivement qu'on a décidé d'étendre le Wushu au lycée Sainte-Marie afin de permettre, comme ils savent bien le dire, dans la chrétienté, mens sana in corpore sano.
Pour gagner en fluidité et en dynamisme, la pratique de cette discipline requiert, selon ses promoteurs, un réel travail de coordination et une bonne formation des instructeurs. Maître Roch Christian Don est directeur technique national de la Fédération gabonaise de Wushu.
Nous voulons aujourd'hui avoir des instructeurs de qualité, des instructeurs à la hauteur, à la hauteur de nos attentes, parce que simplement le Wushu est un art martial compétitif à tous les niveaux. L'harmonisation, on a dit, mise à niveau. C'est une forme d'harmonisation.
Paralysés par la crise sanitaire depuis plus de 2 ans, les clubs Wushu se mobilisent afin de se préparer aux compétitions à venir. Une ambition qui passe par une série d'entraînements chaque week-end. Libreville, Ismaël Obianze pour VO Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous.
Dans Washington Forum cette semaine, le bicentenaire de l'arrivée des premiers Noirs d'Amérique sur ce territoire qui deviendra plus tard le Libéria. Ces esclaves affranchis sont arrivés sur les côtes africaines le 14 février 1822 dans le cadre d'un mouvement de retour vers leur terre d'origine lancé aux États-Unis. Mais le Libéria a connu une histoire politique mouvementée et des relations heurtées entre autochtones et ceux qui s'y sont nouvellement installés. Quelles leçons tirées du Libéria? Vers quel type de relation entre l'Afrique et sa diaspora? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Qui a dit qu'il fallait être né en Italie pour faire une excellente pizza? Ibrahim Sogné, un Burkinabé vivant dans le nord de l'Italie, a réussi à démontrer le contraire. Un sujet de Betty Ayoub, le récit est de Claire Morin-Gibou.
Quand Ibrahim Sogné a appris que le site 50toppizza.com nommait sa pizza parmi les 50 meilleurs au monde, ce fut un véritable rêve devenu réalité pour ce Burkinabé âgé de 30 ans vivant en Italie.
La mia vita in Burkina Faso.
J'ai grandi au Burkina Faso dans un petit village. Nous avions une belle vie parce que mon père travaillait en Italie et il pouvait nous envoyer de l'argent. Nous n'en avions pas beaucoup, mais nous en avions assez pour être heureux.
Et ils seront encore plus heureux quand le jeune Ibrahim et le reste de la famille rejoignent le père dans la ville de Trento, dans le nord de l'Italie, en 2004. Ce déménagement leur apporta une chance d'avoir une vie meilleure, mais aussi d'avoir à affronter des défis raciaux.
Quand j'ai commencé l'école, les choses ont été très difficiles parce que j'étais le seul enfant de couleur et je ne pouvais pas vraiment me fondre dans... Je n'avais pas d'amis. On s'est aussi moqué de moi à cause de la couleur de ma peau.
Mais à 23 ans, il a trouvé une activité qui lui a donné une vraie motivation. Apprendre à cuisiner dans une pâtisserie. Au début, Ibrahim a taquiné son patron que ses douceurs pourraient bien disparaître dans sa bouche.
Mais ensuite, je suis tombé amoureux des plats salés. J'ai commencé à expérimenter à la maison. J'ai commencé par faire des graisins et des crackers. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire de la pizza. Au début, les résultats étaient terribles, mais je n'ai pas abandonné.
Ibrahim Sogné a lancé sa pizzeria, Ibris Focacce y Pizze, en 2018, malgré les avertissements de ses amis qui lui disaient qu'aucun Italien ne va acheter de pizza à une personne de couleur. Mais cela n'a pas entamé sa motivation.
Alors, ho pensato. Lasciare i miei collaboratori.
Alors j'ai voulu tester la théorie. J'ai commencé à quitter le magasin aux heures de pointe, ne gardant que mes employés blancs au comptoir. Et j'ai réalisé que les gens étaient plus disposés à acheter quand je n'étais pas là. Mais petit à petit, les gens ont commencé à s'habituer à moi. Ils m'ont accepté. Et maintenant, nous avons été reconnus comme l'une des 50 meilleures pizzerias d'Italie.
Ibris se distingue par ses ingrédients frais provenant principalement d'agriculteurs locaux. Ensuite, il y a la pâte à focaccia faite avec du levain plutôt que de la levure de bière qui raccourcit le temps de préparation.
Ma pâte a besoin d'au moins 24 heures pour lever, ce qui améliore le goût. Le produit fini est beaucoup plus léger et plus facile à digérer.
Ibris a résisté à la pandémie en développant un programme solidaire. Grâce à son initiative Pizza Sospesa ou Pizza Suspendue, les clients sont encouragés à laisser de l'argent supplémentaire pour payer une part de pizza à quelqu'un qui n'en a pas les moyens.
Je suis très heureux car cette initiative m'a permis d'aider beaucoup de gens grâce aux gens qui ont cru en moi, qui ont cru en cette idée, aux gens qui ont contribué.
Et hanno contribuito.
Ibrahim attribue une grande partie du succès d'Ibris à ses trois collègues, son frère et deux amis proches. Ils l'ont aidé à surmonter les obstacles et à faire l'une des meilleures pizzas d'Italie.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.